Je passe la parole à Christian Lamourou qui voulait dire un mot avant de commencer son exposé sur les sons.
Oui, d'abord, je voulais évidemment vous remercier Pierre-Étienne Ville pour m'avoir invité à participer à ce séminaire international et remercier le Collège de France qui nous accueille pour ce travail aujourd'hui, un travail d'après le titre de conclusion et de comparaison. Je dois, moi, avoir un statut un peu particulier parce que je n'ai pas participé à cette grande entreprise, on peut dire, décennale.
Non, due au décennal.
Bon, en tous les cas, ma comparaison à moi s'inscrit dans le prolongement du séminaire que Pierre-Étienne Ville et moi avons régulièrement animé à l'EHESS pour mettre en vis-à-vis les administrations Qing et les administrations Song, et je suis parti de ce point. Mais au moment de commencer mon exposé, c'est ce que je viens de dire à Pierre-Étienne Ville, je n'oublie pas que nous sommes le 4 juin, et qu'il y a 20 ans, jour pour jour, des centaines et des milliers de jeunes Chinois et de jeunes Chinoises entraient tragiquement dans l'histoire de leur pays. Alors je veux simplement dire que personne ne peut les oublier, même si les autorités chinoises feignent d'ignorer aujourd'hui encore qu'ils appartiennent à tout jamais à cette longue et grande histoire dont nous allons maintenant parler. Je me réjouis bien sûr, comme nous tous, de savoir que le travail systématique de l'équipe internationale, donc que dirige depuis une décennie, Pierre-Étienne Ville, va prochainement aboutir à la publication d'un instrument unique que tu as commencé à nous présenter aujourd'hui. Cette bibliographie va en particulier nous permettre de suivre, je crois que c'était un des points de ta conclusion, l'histoire pluriséculaire des manuels d'administration. Et si pour nous aujourd'hui cette littérature est une trace majeure de l'emprise bureaucratique, ces manuels ont été avant tout un des instruments puissants qui a contribué de façon très précoce à façonner l'administration chinoise en faisant partager ce que j'ai appelé dans mon titre, ce que tu as évoqué dans ton intervention, une même culture bureaucratique aux fonctionnaires impériaux. Alors je vais essayer, à partir justement de l'ouvrage qui m'intéresse, qui va nous intéresser pendant un moment, de mieux définir cette culture bureaucratique. Alors comme les célèbres notes au fil du pinceau, les Bidi, les manuels, eux aussi, recueillent, transmettent des savoirs et les croyances accumulées par les lettrés fonctionnaires, en contribuant, il me semble, ainsi à l'essor et au partage de cette culture bureaucratique. Lorsque tu as répondu tout à l'heure à Anne, je me disais, mais au fond, est-ce que quand on lit un manuel, on est mieux préparé à une tâche aussi écrasante? Par contre, le lire, c'est un signe identitaire fort. C'est appartenir, je veux dire, au cercle qui est concerné par la circulation de ces données, et c'est pour ça que je m'intéresse à ce que j'appelle la culture, cette culture bureaucratique, comme nous tous d'ailleurs, bien sûr. Mais à la différence des notes, à la différence des BT, bien sûr, les manuels sont sans être des règlements, sont des textes normatifs, des textes prescriptifs. Ils viennent compléter, il me semble, un arsenal réglementaire qui existe évidemment par ailleurs, en cherchant, au moins dans les ouvrages du 12e et 13e siècle que je connais un peu, à normaliser les conduites personnelles des fonctionnaires, à régler le comportement des agents dépositaires d'une autorité, et je dirais à dresser une sorte d'inventaire des devoirs professionnels du fonctionnaire. Et c'est sur ce point particulier que ma contribution va insister, à partir d'un des manuels les plus anciens de la période prémoderne. Donc après avoir présenté rapidement ce manuel, le Zhou Yi Zhen, qui est en titre de ma communication, je m'intéresserai à son contenu à partir de deux points de vue. Le contrôle de soi par le fonctionnaire et l'obligation qu'il a de mettre en ordre sa maison. Deux aspects souvent négligés parce que ces parties ne traitent tout simplement pas des activités administratives. J'insisterai ensuite en suivant l'organisation même du texte, sur l'importance accordée à l'écrit et aux procédures formelles pour régler la conduite professionnelle du magistrat et assurer la qualité de sa gestion quotidienne. Oui, tu as écrit le titre parce que je pensais que... Le Zuizhen, donc, ou, et je vous dirai, je vous donnerai ensuite ma traduction, puisqu'il en existe, hein, et fait partie de la quinzaine d'ouvrages, en tous les cas moins de 20 ouvrages de manuels attribués à des auteurs Song qui sont parvenus jusqu'à nous. Et l'un des deux seuls textes datant de façon certaine de la période des Song du Nord, du fait de sa préface datée 1117. Le Zuizhen, donc, qui est attribué à Li Yuanbi, donc, qui est sur le... On peut faire circuler peut-être les abstracts avec les titres qui traitent de... Li Yuanbi, donc, qui est actif dans la première moitié du XIIe siècle, a été évidemment très étudié, j'y reviendrai. Il a été présenté, par exemple, par Denis Twitchett dans la grande bibliographie des Song dirigée par Pierre Vouette, comme le plus complet des manuels Song qui a survécu jusqu'à nous, je cite. À ce titre, donc, il a été étudié. J'utilise moi-même l'édition du Sepu Tsongkhan en 10 tuan, en 10 rouleaux, qui était longtemps la seule disponible et reste la plus utilisée, en dépit de l'existence à la bibliothèque de Pékin, à Taipei, de facsimilés des Qing reproduisant la première édition connue de 1179. Donc le titre du livre que Twitchett traduit, Self-Admonitions for Local Administrators, et que je propose de traduire « Résolution à prendre pour tout fonctionnaire de base », met en avant, et c'est pour ça que je propose cette traduction, le mode rhétorique de l'exhortation dont a parlé Pierre-Étienne Ville, Zhen, hein, mais aussi l'adhésion active, Zi, hein, l'adhésion active que l'agent doit manifester vis-à-vis des normes collectives qui définissent les cadres de son action individuelle. Zizhen, donc s'auto-recommander, hein, cette idée-là. Donc on encourage les hommes, on les stimule pour qu'ils règlent uniformément leur conduite personnelle, la conduite de leur entourage et la conduite des affaires. Ce mode rhétorique est indissociable de la plupart des manuels d'administration que je connais et a finalement servi à désigner la catégorie bibliographique des Guanzhen dont tu parlais, dans laquelle ont été répertoriés beaucoup de ces ouvrages. Mais il est presque certain que cette catégorie n'existait pas encore à l'époque du Zuizhen. Le titre de Guanzhen est celui d'un autre ouvrage bien connu des Song, attribué à Lu Benzhong, qui est un contemporain de Lu Yuanbi, hein, puisque Lu Benzhong, on a la date de sa mort, meurt en 1145. Il est actif lui aussi, essentiellement dans la première moitié du XIIe siècle. Donc cette catégorie a donc une histoire, et les Song, sans doute grâce, comme j'allais dire presque toujours, à la relative abondance des sources dont nous disposons pour la période, marquerait un moment important de cette histoire. Je remercie le luxueux appariteur. Et je remercie.
Qui c'est le Chinois
Qui c'est le Chinois. Donc, le mieux est sans doute ici de rappeler quelques-uns des résultats de Satake Yatsuhiko, un collègue japonais qui a beaucoup écrit sur le texte qui nous intéresse. Et Satake indique, j'ai retenu plusieurs points, j'en ai retenu trois qui me semblent intéressants. Premier point, avant de désigner les manuels de fonctionnaires, le terme de Guanzhen, présent dès les Han, change de sens à partir précisément des Song. Il désignait à l'origine des admonestations et des remontrances adressées aux souverains par des fonctionnaires sous la forme quasi exclusive d'élégantes formules classiques des Dianya. Le deuxième point, le terme, et c'est intéressant parce qu'il fournit là une chronologie précise, enfin la remarque de Satake propose une chronologie précise, le terme prendrait son nouveau sens à la suite des réformes de Wanshi, dont je vous rappelle les dates, 1021-1086, qui marquerait à partir des années 1070, les réformes des années 1070, une nouvelle étape dans la gestion administrative. Il y aurait alors une prise de conscience des nouvelles tâches, dit Satake, et les manuels apparaissent dès lors comme un vecteur de la diffusion d'un discours administratif conscient de sa spécificité. Et ce développement conscient, c'est le troisième point, serait indirectement à relier aux tentatives systématiques de réglementation du rôle, des conditions d'emploi et de rémunération de tout ce personnel dont a parlé Pierre-Étienne Ville, les non-fonctionnaires, qui étaient les commis et autres agents des bureaux. Précisément, lors de la mise en œuvre d'une loi sur les greniers de Sangfa, qui restait célèbre, puisque Wang Hanshi proposait la rémunération et surtout proposait de trouver des lignes budgétaires pour la rémunération de ce personnel subalterne. Le Zhouyi, donc, est un des quelques textes qui ont pu, au début du XIIe siècle, servir de repère aux auteurs postérieurs. On sait en effet, par les catalogues bibliographiques, comme le Zhidai Shulu Tieti, que Lu Huiqing, un autre grand acteur des réformes de Wang Hanshi, avait rédigé un Zhi Xianfa, ou un Xianfa, c'est-à-dire un règlement pour administrer une sous-préfecture. Et un Xian ou Gangmu, un programme des tâches dans une sous-préfecture en 20 yuan, dont la préface est datée de 1100, aurait été écrit par un certain Liu Peng. Donc on a une petite série de textes qui semblent liés à ces périodes de réforme, puisque à partir de 1100, l'empereur Huizong reprend ses politiques de réforme de Wang Hanshi qui avaient été abandonnées pour un temps pendant la régence de son prédécesseur. Voici une présentation rapide des principales parties du Zhouyi qui ne comporte pas de table des matières. Le premier chapitre, le premier Duan, aborde trois domaines. Zhengji, se régler. Zhijia, administrer sa maison. Et une troisième partie qui, elle, va s'étaler sur trois autres chapitres, Chushi, traiter les affaires. Le cinquième chapitre regroupe une centaine d'entrées sous le titre général de règlement, Guiju, en faisant la part belle aux relations, toujours, avec les commis et les employés, puisqu'on y trouve 72 entrées consacrées à ce secteur. Puis viennent dans l'ordre les quatre derniers chapitres, encouragement et proclamation à la population, Tianyu Min Shu Pang, des placards ou proclamations aux anciens et aux adultes, Pang Qi Zhuang, un contrôle des maisons d'enregistrement chargées de la rédaction des notifications et des billets, Xie Zhuang Chao Shu Bu Hu Yue Su. Puis, dans un neuvième chapitre, l'impression des notifications des jugements, Panzhuang Yinban. Et enfin, une dernière partie, un dernier chapitre, recommandations pour les voyages, Deng Tu Xuzhi. Le texte, je n'insiste pas car le fait est connu par la plupart d'entre vous, est construit sur des prescriptions assez courtes, qui sont plus ou moins liées entre elles par thème. Même si parfois la logique de ce lien reste un peu obscure à nos propres yeux. Leur portée peut être très générale, j'en donnerai des exemples, comme le sont des aphorismes, mais elle est souvent technique et pratique, c'est évidemment le sujet qui nous intéresse, même si dans ce cas, le caractère pratique, elle peut prendre un tour presque anecdotique, comme par exemple dans la dernière partie, quand il est conseillé aux voyageurs de ne pas placer dans le même compartiment son thé et les herbes médicinales, ou des herbes médicinales trop âcres avec ses vêtements. Donc j'en viens à la première partie qui m'intéresse, se régler et administrer sa maison. On peut voir dans ces deux premières parties une concession, tu l'as rappelé tout à l'heure, c'est très régulièrement présent dans les manuels, une concession à la rhétorique lettrée classique, sans réel rapport avec les tâches pratiques d'un administrateur. D'ailleurs, aux yeux de Satake, donc, qui a bien étudié ce texte, la première partie serait simplement une longue glose des principes de la grande étude, du Liti, le Liti, le Traisuer, dans lequel on trouve ce fameux passage sur l'art de gouverner des anciens souverains. Ge wu zhi cheng yi zheng xin, qiu shen qi jia, zhi guo ping tian xia. Leur connaissance, je reprends en l'abrégeant et en la modifiant un petit peu la traduction de Couvreur, leur connaissance, ce sont les anciens souverains, étant arrivés à leur plus haut degré, leur volonté était parfaite. Dès lors, les mouvements de leurs cœurs étaient réglés et leur personne était irréprochable. L'ordre régnait ainsi dans leur famille et leurs états étaient bien gouvernés, si bien que la tranquillité régnait partout sous le ciel. Donc, pour s'attaquer, il y a dans ces premières parties du Zhou Yezhen une sorte de concession obligée et affichée à ce texte classique du Liti, évidemment tout à fait connu, bien qu'en 1117, il n'appartienne pas encore au Sushu. À mes yeux, cette entrée en matière permet surtout d'insister sur la nature des normes qui relient la conduite du gentilhomme lettré au sein de sa maison et son action technique et professionnelle. Et c'est sous ce jour que je veux les traiter maintenant. L'administrateur doit d'abord agir sur lui-même, souvent à partir d'une morale pratique qui sert également de fondement, à la gestion de sa maison. Deux formules vont à l'essentiel. Lin shi wu xin, wu xin zi gong, you xin zi bian. Face aux affaires, on doit être sans passion, car sans passion, on est impartial, alors que possédé par la passion, on est partial. Gong sheng ming, bian sheng an. L'impartialité engendre la lumière et la partialité la confusion. Et plus loin, huo zhe yue, gong shi zhu jia shi, guan wu zhu ji wu, qi you bu ji bu xi ye. On dit que les affaires publiques sont à traiter comme ses affaires domestiques et que les biens de l'administration sont à traiter comme ses propres biens. Dès lors, est-il concevable de ne pas en tirer le meilleur parti et de ne pas s'impliquer totalement ? Voilà cette rhétorique, se détacher de ses passions et prendre à cœur la gestion des affaires publiques comme si elles étaient les siennes propres. L'administrateur doit, pour y parvenir, cultiver cinq qualités. Il doit se montrer humble, tien, conciliant, he, intègre, lien, prudent, tien, et diligent, tien. Ces qualités le qualifient pour mener à bien son activité d'administrateur tout en plaçant son administration dans le registre de l'engagement éthique. La prudence, en particulier, se traduit très concrètement par une méfiance que Pierre-Étienne Ville a évoquée à plusieurs reprises, une méfiance qui doit éviter aux magistrats, je cite, « de prendre des décisions en état d'ébriété », mais aussi, je cite, « de s'interdire de se promener seul sur les terres de ses administrés ou de fréquenter seul des temples ou monastères sans y conduire d'activité publique ou si... sans y avoir été invité. Il est de fait en position de percevoir une double menace. D'une part, il doit faire face aux pressions de l'extérieur, exercées par des parents, des notables civils ou religieux, des fonctionnaires de passage, y compris ceux qui appartiennent à sa hiérarchie, tout un monde qui gravite autour de ses bureaux et l'assiège, en quelque sorte, pour obtenir d'éventuelles faveurs ou, tu l'as rappelé, le prendre en défaut. D'autre part, il doit être vigilant face aux dangers qui menacent ses bureaux de l'intérieur du fait d'une gestion quotidienne assurée par des employés qui ont la réputation exactement inverse de celle qu'il doit lui-même cultiver. Ce petit personnel dont tu as parlé est réputé arrogant, peu conciliant, malhonnête, désinvolte et paresseux, les cinq défauts qui sont symétriques aux cinq qualités que le fonctionnaire doit cultiver. Si l'on ajoute que ces agents subalternes, au contraire du fonctionnaire qui est régulièrement muté, sont implantés dans la société locale, on l'a dit dans la discussion, les familles, etc., et donc peu soucieux d'impartialité, on mesure l'importance pratique du travail du magistrat sur sa propre conduite. De cette réalité découle la nécessité de distinguer correctement l'intérieur de l'extérieur et de comprendre dans quelle mesure leurs effets déstabilisateurs peuvent se combiner pour menacer les affaires publiques. Et cette délimitation est celle qui s'impose naturellement à tout chef de famille. Or, on vient de le rappeler, les affaires publiques sont à traiter comme ses propres affaires domestiques et les biens de l'administration sont à traiter comme ses propres biens. En d'autres termes, le magistrat qui est appelé, rappelons-le, un fonctionnaire père-mère, Fu Mu Guan, doit s'investir avec la même intensité, la même abnégation dans les deux types d'affaires. Il est dès lors légitime de s'interroger sur les liens possibles entre deux types de discours techniques et normatifs, ceux qui ont trait à la gestion d'une maison, les ménagers, pour reprendre un ancien mot du français que l'anglais a su moderniser et imposer, et ceux qui nous intéressent ici sur la gestion d'une circonscription administrative, d'abord saisie comme un patrimoine. Il existe à cette époque une nébuleuse de textes autour de la maison et de sa gestion, dans lesquels on retrouve une part du vocabulaire utilisé par l'auteur du Zhōyi, à commencer par ce terme de « zhijia », qui donne son titre à la partie, qui renvoie par exemple à un chapitre du « Jiafan » de Sima Guang, dont je vous rappelle les dates, 1019-1086, donc un auteur contemporain des réformes de Wang Hanshe que j'évoquais tout à l'heure, en fait le pire adversaire de ces réformes, et qui, dans ce texte, sur les règles de la maison, Tiafan, oriente sa réflexion sur des règles familiales, Tiafa, pour insister sur le respect des positions et des relations dans la famille, sur la définition des rapports entre aînés et cadets, entre hommes et femmes. Le texte de Sima Guang, qui est donc bien antérieur au Zhōyi, s'inscrit dans le registre d'une éthique familiale qui repose sur des règles rituelles, ce qui tend en partie à confirmer l'hypothèse de s'attaquer sur l'évolution des manuels qui passeraient du registre d'un enseignement moral à celui d'un savoir pratique. Et ce savoir pratique est bien présent dans ce que je viens d'appeler les ménagers des Song du Sud, puisque le Yuan Shi Shi Fan, dont on possède l'intégralité, puisque le texte a été traduit intégralement par Patricia Ebrey, donc ce Yuan Shi Shi Fan de Yuan Cai, dont on ignore les dates, son texte a été achevé en 1178, donc dans la deuxième moitié du XIIe siècle, et il comporte un tuan, le troisième, le dernier tuan, qui s'intitule lui aussi Zhijia. Managing Family Affairs, dit Patricia Ebrey, traduit Patricia Ebrey dans son livre. Et le texte de Yuan Cai propose des conseils en matière de choix de gestion censés permettre à un chef de famille de préserver son patrimoine, voire de l'agrandir. Et de ce point de vue, la gestion de la famille, tia, implique bien une gestion que nous appellerions économique, en termes de choix d'investissement, de calcul des risques ou de calcul des coûts. La famille, tia, est une unité économique, au contraire du lignage, le zong, qui est une unité rituelle. Et le souci de gestion pratique du lignage se retrouve dans des règlements ou instructions Guizhu, qui insistent en particulier sur la gestion des terres lignagères, les fameux Yizhuang, que Denis Twetchet a étudié il y a déjà presque 50 ans, à partir de l'exemple laissé par Fan Zhongyan, un autre auteur song des Song du Nord. Or, c'est bien ce terme de Guizhu, d'instruction, de règlement, que reprend précisément le cinquième chapitre du Zhōyi Zhēzhēn consacré aux règles de l'administration. Et dans ce cas, ces règlements concernent surtout la gestion, je l'ai dit, du petit personnel des bureaux, ces employés peu scrupuleux dont le magistrat doit toujours, bien sûr, se méfier. Enfin, plusieurs textes de la seconde moitié du XIIe siècle étudié par Joseph McDermott, dont tu parlais, propose des consignes en matière de gestion quasiment comptable des finances familiales. Hein, McDermott cite en particulier deux textes, l'un de Nice, l'autre de, du célèbre Luthurien, hein, qui sont des manuels, de quasi-plans financiers, distinguant le long et le court terme, imposant des comptes rendus financiers mensuels et annuels, avec des rapports adressés aux chefs de famille qui doivent leur permettre d'établir des objectifs en termes de carrière pour les membres ou d'enrichissement de l'ensemble du groupe familial. Tout ce que je souhaite évoquer ici, c'est ce chevauchement, cette analogie dans les règles de deux gestions de ces deux collectivités, de ces deux communautés, la famille et la circonscription de base. Et de ce point de vue, l'administrateur n'est certainement pas un contrôleur venu d'en haut. Il est chargé de gérer la société locale, encore une fois, comme un patrimoine qu'il doit faire participer au bien commun tout en le préservant grâce aux idéaux de justice et d'équité, de respect des hiérarchies et des équilibres. Et on constate, au demeurant, que l'essor des manuels et la croissance générale de la littérature des ménagers semblent parallèles. Un auteur comme Johann Saer, dont je viens de parler, est également l'auteur d'un manuel aujourd'hui perdu, le Sienling Xiaolu, note brève d'un magistrat, et le texte normatif qui nous reste de lui, de Johann Saer, donc son texte, son ménager, montre son souci de réfléchir concrètement aux dangers de dissolution des patrimoines et aux parades propres à limiter concrètement ces dangers, nés des évolutions extérieures à la communauté, qu'est la famille, mais aussi à l'intérieur du fait même du comportement de ses membres. Et on retrouve évidemment cette double pression, si j'ose dire, extérieure et intérieure. Cependant, si l'analogie entre la maison et la sous-préfecture apparaît évidente et assumée, dans la mesure où elle conduit à les aborder l'une et l'autre sous l'angle unique d'un patrimoine dont il faut tirer le meilleur parti, cette analogie est naturellement ambiguë. Elle est ambiguë car il est évidemment impossible de confondre les deux champs d'action, les deux patrimoines. On doit dès lors se demander comment se construit la distinction entre le domaine privé, la maison, et le domaine public. Si l'un et l'autre de ces domaines se caractérisent par une seule et même nature patrimoniale, et si l'investissement en termes d'activisme, d'abnégation de la part du gestionnaire doit être le même. Il semble que la conduite éthique qui permet au magistrat de conserver sa probité, son intégrité, en distinguant ses intérêts personnels des intérêts collectifs, trouve son expression formelle et visible dans le strict respect des procédures. La distinction entre domaine privé et domaine public dépend d'abord de ces multiples procédures dont le formalisme est mis en avant en donnant à voir au sens strict que l'action du magistrat, toujours entendu comme un chef de famille, est détachée de ses passions. Ce formalisme rend public la neutralité et l'impartialité de son action, et la routine des procédures règle aussi bien la conduite du magistrat que celle des agents impliqués dans la gestion de sa maison ou de la sous-préfecture. Voici à titre d'exemple comment est codifiée dans cette partie, je tiens à administrer sa maison, la procédure destinée à l'achat des produits que le magistrat doit se procurer pour lui-même sur les marchés. Pour les registres relatifs aux achats sur les marchés, je commence ma citation, il est nécessaire de tenir deux livres afin de se prémunir contre des pertes. Chaque jour, on exigera des agents de service qu'ils vérifient les comptes. Leurs notes seront inscrites en continu depuis le début de la liasse. Et c'est sur présentation de la liste des paiements effectifs et des tarifs supérieurs qu'on pourra donner quitus. Le registre comptera 30 pages qui seront données ensemble. En outre, on consignera les chiffres par deux versoirs et on mettra un sceau sur la reliure. On fera confectionner des fiches en bois carré de plus d'un pied de côté. L'inscription de la proclamation sera soit gravée dans le bois, soit laquée en doré. Ces fiches sont remises aux suivants, préposés aux achats, pour être montrées aux gens des guildes. Et on trouve dans le 8e chapitre, qui est consacré au modèle, justement, de proclamation, au modèle de rédaction de ces affichages publics, on trouve le contenu de cette fiche, le voici. Inscription à porter sur les fiches pour les achats sur les marchés. Salle du magistrat. Toutes les catégories de marchandises achetées par la dite salle sont payables d'avance au prix de vente réel le plus élevé. Par la présente, on attend du coursier qu'il veille au respect de l'engagement pris par l'inscription, à savoir que sur toute place de vente, il prête le prix de vente réel le plus élevé avant de recevoir le produit. Face à un achat pour lequel il aurait osé payer un prix moyen ou bas, voire au mépris de la plaque, exiger abusivement le produit ou obtenu à crédit ce produit, on se rendra devant la salle du sous-préfet pour y faire sa déposition. Ces règles, qui créent donc un mode de fonctionnement routinier, procédural, détachent, donc je l'ai dit, la gestion des intérêts particuliers du magistrat, de ses passions, au nom d'un principe supérieur que j'ai tendance à appeler le principe patrimonial. Au nom de ce principe, le patrimoine est simplement en dépôt et le gestionnaire n'en assume que la charge pour un temps donné. C'est cette conduite réglée qui est à l'œuvre dans toutes les affaires que traite l'honnête gestionnaire, quel que soit son point d'application, sa famille ou la société locale dont on lui a confié la charge. Pour revenir à l'histoire factuelle, celle des Saônes, celle des premiers Saônes, il faut aussi se souvenir que l'action centralisatrice du pouvoir dynastique visait toujours à lutter contre le danger de mainmise par des familles sur la gestion de l'administration. Une situation évidemment héritée de la période de division des cinq dynasties, qui prennent fin avec l'avènement des Saônes quelque part en 980, et qui semble avoir perduré précisément dans le recrutement des employés d'administration, au moins jusque dans les années 30, puisqu'on a un édit dans les années 30 qui met fin à certaines pratiques qui privilégiaient un recrutement quasi héréditaire des employés. Dans ces conditions, l'enjeu politique a été d'amener l'administrateur à se détacher de sa maison pour administrer sa circonscription. C'est-à-dire qu'il a fallu créer des dispositifs efficaces capables d'amener le magistrat à considérer la sous-préfecture non plus comme un patrimoine isolable et isolé, son patrimoine, mais de le redéfinir comme le lieu d'exercice d'une mission fondamentale que tu as évoquée précisément, celle de relier une société locale à un centre dans le respect d'intérêts qui se recoupent sans se confondre. J'en viens maintenant, et vous devinez pourquoi j'en viens à cette partie que j'ai appelée écrit, procédure formelle et conduite professionnelle. Elle est centrale dans les manuels et j'ai expliqué les raisons pour lesquelles je crois qu'elles ne sont que le dispositif qui permet d'appliquer concrètement, pratiquement, les principes qui sont établis dans la première partie du manuel. Alors, comme il est impossible de suivre le détail des entrées dans les chapitres qui traitent des affaires publiques, qui sont bien plus développés que les passages relatifs à la gestion de la maison, je vais d'abord relever plusieurs des thèmes traités. Le magistrat doit disposer d'informations fiables et disponibles à l'instant. Ces informations portent sur la géographie, les bâtiments publics, les registres de fiscalité, les personnalités ou les coutumes locales. Et on reconnaît bien évidemment le contenu même des monographies locales dont il doit assumer régulièrement la compilation. Les cartes et diagrammes tiennent donc une place importante et sont physiquement disposés autour de lui. Pour garantir la fiabilité de ces informations, le traitement des affaires, la partie traitement des affaires, suppose la stricte définition des systèmes d'inscription et d'enregistrement. Ces systèmes concernent les documents qui traitent des administrés et ceux qui traitent des services de la sous-préfecture. L'activité des bureaux en direction des administrés se concentre évidemment autour de deux grands champs, le traitement des affaires judiciaires et le traitement des affaires fiscales et financières. Là encore, les procédures imposent la production de registres, de bordereaux, d'attestations qui sont l'objet de présentations et de contrôles avant d'être visés à intervalles réguliers. Le classement des documents s'opère selon la nature des affaires, avec une conservation puis un archivage des dossiers dans des coffres différents. Enfin, le contrôle des marchés passe par l'enregistrement des intermédiaires commerciaux dans des registres. Concernant les bureaux, il s'agit d'enregistrer les données relatives aux services des commis et des tours de corvée, de contrôler la présence physique des agents dans les bureaux, d'archiver et de numéroter tous les actes administratifs avec paraphe de l'agent qui a traité le dossier. Bien évidemment, le thème de l'ordre public, qui est plus large que le travail judiciaire ou fiscal, est très présent. Le souci du maintien de l'ordre impose aux magistrats de surveiller personnellement l'état de la prison, de tenir à jour un compte précis des détenus en instance d'instruction ou de transfert, ou de procès bien sûr. Mais le souci de l'ordre comprend également la circulation de la population, puisque les règlements prévoient de rassembler les informations relatives à l'état des routes et des ponts, à la fréquentation des auberges et au recensement des oisifs. On est d'ailleurs frappé par les entrées, et je me souviens d'une discussion que nous avions eue, qui souligne le souci de l'administration de prendre en charge des voyageurs malades ou même décédés, des voyageurs décédés dans les auberges. Peu de choses sur l'éducation, par contre, mais j'y viendrai quand on reparlera du rôle d'éducateur, évidemment, du magistrat. La gestion de tous ces documents qui représentent le réel, tels les cartes, mais aussi les comptabilités, les états ou les inventaires, devient la réalité du travail bureaucratique. C'est-à-dire que la gestion du document qui représente le réel se confond ainsi avec la gestion de la réalité elle-même, sur laquelle il présente des avantages. L'archive permet le contrôle a posteriori et elle se transmet en redonnant prise sur le réel au moment choisi. C'est une véritable mémoire de papier. Tous ces systèmes visent à assurer la qualité de la communication intra-bureaucratique qui converge vers le magistrat impartial chargé d'arbitrer. Cette paperasse, pour reprendre un thème débattu il y a une quinzaine d'années par Jacques Gernet, ou peut-être une vingtaine d'années maintenant par Jacques Gernet et Pierre-Étienne Ville, vise à rendre l'action administrative transparente tout en maintenant le magistrat à distance des choses et des hommes. On a évoqué la distance vis-à-vis des choses à partir de l'exemple des procédures encadrant les achats pour sa propre maison. Cette distance est produite par l'intermédiation, j'appellerai le fait de ce processus, ce phénomène, l'intermédiation que constitue la transmission de papier, l'inscription sur les registres ou la production de fiches qui rendent publics les actes et en gardent la trace. La distance vis-à-vis des hommes est évidemment la conséquence de la suspicion que nous avons déjà évoquée. Cette mise à distance s'appuie sur deux logiques. D'une part, le magistrat se garde de fréquenter les agents et les personnalités susceptibles de s'immiscer dans les affaires publiques, dans le sens où elles sont capables, du fait de leur position, de porter atteinte à l'impartialité de son action administrative. Parents et clients des collègues, lettrés, médecins et devins, membres des clergés, bouddhistes et taoïstes, agents occupant des charges publiques. Et d'autre part, sans surprise, cette conduite irréprochable s'appuie sur l'intermédiation de l'écrit. Grâce au respect des procédures, les documents sont censés consigner les décisions sans laisser le moindre espace susceptible d'être exploité, par exemple, par les agents des bureaux malveillants, qu'il s'agisse d'affaires judiciaires, de contrats commerciaux ou de rôles fiscaux. Le travail quotidien, donc, qui consiste à écrire, lire, contrôler, viser, transmettre, classer, archiver, selon des procédures définies, repose nécessairement sur une division du travail. Une segmentation des tâches et des responsabilités. Et ce travail a lui aussi un effet direct sur la mise à distance du magistrat, puisqu'il est en effet le seul en position d'appréhender et de mobiliser l'ensemble de l'entreprise bureaucratique. Les procédures et la constitution de ce que j'ai appelé la mémoire de papier divisent les bureaux, garantissent le contrôle de ceux qui produisent ces connaissances, mais elles visent à permettre aux magistrats d'assumer seuls ses responsabilités dans ses prises de décision et de pouvoir en rendre compte à ses supérieurs, puis à ses successeurs. Les chapitres 6 et 7 sont consacrés aux règles et aux formes de communication de l'administration avec ses administrés. Cette communication comporte deux niveaux. Le magistrat s'adresse à sa population par des proclamations, des exhortations, des placards, mais il passe régulièrement, y compris pour les proclamations, tu l'as évoqué tout à l'heure, par un deuxième niveau de communication qui a son autonomie, celui des intermédiaires. Ce sont des particuliers chargés de tâches réglementairement définies et hiérarchisées. Ce sont aussi des lettrés, des notables qui sont à la retraite ou en attente de poste. Ces chapitres permettent ainsi non seulement de compléter notre connaissance des procédures et de l'organisation qu'elles définissent entre bureaux et administrés, mais également de découvrir la nature et le rôle de ces intermédiaires. Et le Zhuizhen est régulièrement cité par tous les historiens des Song pour les informations qu'il fournit sur l'organisation infra-bureaucratique, c'est-à-dire l'organisation qui relie directement l'administration à la population. Les exhortations ou admonestations s'adressent à l'ensemble de la population. Elles existaient sous différents noms, Yusuwen, Tianyuwen, Shusuwen, bien évidemment avant les Song. Mais sous les Song, ce sont de plus en plus ces administrateurs locaux, les préfets, les sous-préfets, qui sont chargés de ces avis, de ces proclamations, ce dont témoignent les monographies locales qui reprennent, qui citent régulièrement certains de ces textes, en particulier les encouragements à l'agriculture, produits par les bureaux de l'agriculture, les tuanons. Ces textes qui étaient lus, éventuellement affichés ou plus souvent copiés à la craie. On a dans le Zhuizhen une entrée qui précise que les anciens ont pour charge de tenir en état le mur sur lequel doivent être rédigées les proclamations. Donc ces textes qui étaient lus, affichés, visaient à l'éducation, j'y viens, de la population face aux tensions, aux contradictions sociales et aux conflits propres à toute société rurale. Les admonestations dénoncent la multiplication des affaires judiciaires qui touchent aux problèmes de propriété et de partage des patrimoines. Elles valorisent un ordre fondé sur le respect des liens entre parents. Elles valorisent les vertus de diligence, de frugalité, sans oublier le respect des obligations dues à l'administration en matière fiscale. Ces textes mentionnent régulièrement trois principes majeurs, bien sûr, la piété filiale, l'entraide au sein de la communauté, le refus de l'esprit de chicane. Les anciens et les élites lettrées locales sont parmi les principaux destinataires des admonestations, à la fois parce qu'ils représentent les intermédiaires indispensables pour toucher la population, mais surtout parce qu'ils constituent les interlocuteurs indispensables du magistrat, ce qui lui permet d'orienter correctement son action et de la prolonger. Ils appartiennent donc à un second cercle de sociabilité et sont mobilisés dans la défense des trois principes, soit parce que les anciens sont susceptibles d'infliger des sanctions légales à ceux qui les bafouent, soit parce que la sagesse de leur conduite en fait des exemples. Cette bonne conduite doit susciter l'harmonie au sein de la famille, en incitant en particulier les parents à se soucier des activités de leurs enfants. Elle doit favoriser l'harmonie dans le domaine conjugal, pousser ceux qui travaillent, agriculteurs, artisans ou marchands, à mener leurs activités sans être animés d'un mauvais esprit. Mais on sait, au vu du contenu des proclamations, que les anciens ont de vraies compétences en matière administrative, en matière judiciaire et en matière sociale. C'est un ancien qui répartit les tâches entre les hommes de service, remet aux plaignants un reçu, enquête et rencontre des disputes ou des désordres collectifs. C'est lui qui atteste l'identité des plaignants ou des prêteurs, fait entretenir la voirie, les ponts ou les puits, et c'est lui qui doit prendre soin des malades isolés. Il est également en charge de la sécurité des fonctionnaires et des lettrés qui circulent, et il organise l'expulsion des marginaux, aussi bien que la lutte contre les calamités. Les anciens sont enfin responsables des monastères, des temples, des sites et pavillons situés sur leur territoire. La présence régulière dans les bureaux, d'ailleurs, de la sous-préfecture du petit personnel des cantons dépendant des anciens est par ailleurs signalée et donne une idée plus concrète, d'ailleurs, de la circulation de ce petit personnel. Les secrétaires en service dans chaque canton tiennent à la disposition permanente du magistrat les registres fiscaux ou les registres de corvée, parce qu'ils n'ont pas le droit d'emporter ces registres à la maison, dit le texte. La procédure de contrôle des quittances implique que celle-ci soit adressée le jour même par les magasins, donc par ces secrétaires des cantons. Un dernier thème me semble simplement à signaler, c'est celui du rôle joué par les maisons d'écrivains publics, hein, les choupeaux que j'ai évoqués, qui sont habilités à rédiger des plaintes et des dépositions, mais également à certifier des contrats, en particulier des contrats de mariage, et ils sont même censés, ils jouent un rôle important, attester l'identité des candidats aux examens. Or, ce sont des organismes privés qui sont sous le contrôle, ou je dirais qui fonctionnent comme des auxiliaires de l'administration. Ces documents écrits et lus devant la population, je reviens aux proclamations, apparaissent comme des dispositions destinées à la prévention des désordres et à l'encadrement de la population par elle-même, sous l'autorité du magistrat qui se place en arbitre. L'explicitation des consignes et des mises en garde, l'obligation à se plier à des engagements contraignants, sont destinés à responsabiliser des individus, à responsabiliser les individus concernés et à annoncer l'application des sanctions éventuelles. Le magistrat n'agit d'abord que comme le garant de ses engagements, un régulateur, je l'ai dit, un arbitre. Sa fonction essentielle est donc d'éduquer par des engagements matérialisés par ses proclamations et ses documents qui circulent pour être rendus publics et suppose d'ailleurs le retour d'autres documents rédigés par les anciens qui attestent le bon fonctionnement social ou dénoncent au contraire les dysfonctionnements. Cet ordre est le produit donc d'une éducation permanente qui est l'autre facette du lien que le magistrat entretient avec ses administrés. L'échec de cette éducation le conduit à retrouver sa fonction de juge. Donc, je crois qu'il est temps de conclure sur la conduite professionnelle du magistrat, telle qu'elle se dégage du Zoe in the Gen. Donc, j'ai choisi d'approcher, je l'ai dit, ce manuel à partir du formalisme des procédures, en soulignant que l'autorité d'un chef de maison et d'un fonctionnaire local repose bien sur un fondement éthique unique. Ces procédures sont la principale expression de son impartialité et de sa mise à distance des choses et des hommes. Les règlements, la production codifiée, le traitement des documents contribuent alors à faire surgir des qualités techniques, objectives, reproductibles et transmissibles qui se détachent des seules qualités morales. C'est la raison, il me semble même, des manuels. Les manuels sont présentés comme le fruit d'une expérience, l'expérience individuelle et collective des lettrés fonctionnaires. Leur expérience professionnelle est souvent différenciée, partagée entre l'administration centrale et locale. C'est une expérience géographique différente et elle procède d'immersions culturelles contrastées au sein de plusieurs circonscriptions. C'est enfin l'expérience d'une alternance entre des périodes d'intense activité et celle de l'attente d'un poste. Le lettré est ainsi placé alternativement dans une position d'acteur responsable des affaires ou de notable, engagé dans la défense du bien public, mais sans responsabilité directe devant la hiérarchie. Donc la mise en texte de ces expériences différentes participe de la construction et de la perception d'une identité professionnelle. La lecture d'un texte normatif comme le Zoyi incite le magistrat à installer dans sa vie des procédures routinières qui guident non seulement ses actes quotidiens, mais dictent aussi bien sa conduite sociale, ses relations avec le personnel administratif, mais aussi avec son cercle de sociabilité, ses relations, avec les notables et même avec sa famille. À ce titre, les entrées introduisent une nette différence entre un fonctionnaire en poste et un fonctionnaire sans poste ou en attente de poste. C'était d'ailleurs le cas de l'IUMB lorsqu'il écrivit le Zoïdzogène, ou qu'il le préfaça en 117. Le magistrat devient ainsi un être social particulier, dont les responsabilités sont permanentes et la conduite, dans chacun de ses rapports au monde, définie par sa charge. En retour, les représentations de ce statut particulier que produisent et véhiculent les manuels constituent une part importante du processus qui révèle au lettré qu'il est ou va devenir un élément d'un système, la bureaucratie. J'ai insisté peut-être un peu trop sur les parties rhétoriques ou idéologiques du Zoï en sacrifiant un peu les activités de l'administrateur. Et j'ai cru bon de procéder ainsi parce que j'ai fait le pari que vous tous, vous insisteriez davantage sur la matière administrative des manuels. J'ai surtout estimé qu'avec les Song, il est peut-être possible de saisir les inflexions, les bifurcations qui tendent à réorienter la conduite du gentilhomme lettré à travers des procédures formelles dans lesquelles l'écrit, la conservation du papier tient une place essentielle, donc vers la construction de ce nouvel être social, le fonctionnaire impérial. Et le Zoï garde, il me semble, quelques traces fortes de cette grande transformation. Voilà.